Bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on part au Cambodge. Enfin, on pensait.
Ah, le Cambodge.
Oui, ce nom qui fait rêver, hein. On pense tout de suite au temple d'Angkor, perdu dans la jungle, aux plages aussi, à cette culture si riche.
C'est clair, c'est une destination qui marque.
Absolument. Et elle est sur pas mal de listes de voyages, j'ai l'impression. Mais bon, une fois qu'on se décide, la question qui tue, c'est: mais quand est-ce qu'on part? C'est quoi le meilleur moment?
La fameuse question.
Exactement. Comment choisir pour vraiment profiter à fond de l'expérience? C'est justement ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. On va s'appuyer sur un guide assez détaillé de Destination Cambodge. L'idée, c'est d'analyser un peu toutes les infos qu'il donne.
Oui.
Pour aider chacun à trouver sa période idéale. Parce que le meilleur moment, bah, ça va dépendre de ce qu'on cherche, de ses priorités.
Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant avec le Cambodge, et le guide le montre bien, il n'y a pas une seule réponse. Le pays a vraiment, disons, deux visages selon la période.
Deux visages.
Oui, à cause de son climat tropical en fait. Et notre but, c'est ça, décortiquer un peu tout ça, le climat, bien sûr, les saisons, mais aussi les fêtes, les aspects pratiques, comme le budget, pour que chacun puisse choisir en connaissance de cause. Trouver la période qui colle le mieux à ses envies, la météo parfaite, l'immersion culturelle, les paysages, ou peut-être juste voyager moins cher.
D'accord.
Alors, commençons par la base. Ce climat tropical. En gros, il y a deux grandes saisons très nettes.
La saison sèche et la saison des pluies.
Exactement. La saison sèche et la mousson. Et ça change tout. Les températures, l'humidité, mais aussi les paysages, l'état des routes. Bref, comprendre ce cycle, c'est vraiment la clé numéro un.
Ok, alors allons-y pour la saison sèche. D'après le guide, c'est grosso modo de novembre à avril.
C'est ça.
Là, c'est soleil quasi garanti, très peu de pluie. Niveau température, on est entre 25 et 35 degrés. Chaud, oui, mais souvent un chaud plus sec, non?
Oui, c'est souvent plus supportable, surtout au début.
Le guide met d'ailleurs l'accent sur novembre à février. Apparemment, c'est le top.
Ah oui, carrément.
Pourquoi?
Parce que la chaleur est plus modérée et surtout l'humidité est basse. Du coup, c'est idéal pour explorer, que ce soit encore ou même pour se poser sur les plages.
Et puis, les routes sont bonnes. On circule facilement. C'est la haute saison, quoi, logique. Le guide note d'ailleurs ces mois comme excellents.
Tout à fait. C'est un peu l'image d'Épinal du Cambodge que beaucoup ont en tête. Mais il y a l'autre côté de la médaille, la saison des pluies, de mai à octobre.
La mousson.
Voilà. Et là, attention aux idées reçues. Le guide le dit bien. Ça ne veut pas dire qu'il pleut non-stop pendant 6 mois, hein.
Ah non.
Non, le plus souvent, ce sont de grosses averses, parfois très fortes, c'est vrai, mais courtes. Souvent en fin d'après-midi ou la nuit. Les températures, elles, restent élevées, comme en saison sèche, genre 25-34 degrés.
Mais alors, qu'est-ce qui change vraiment?
C'est l'humidité. Elle grimpe en flèche et là, l'atmosphère peut devenir lourde, étouffante parfois.
D'accord.
Par contre, cette saison a des atouts incroyables, souvent oubliés. C'est là que la nature cambodgienne explose littéralement. Les paysages se transforment, c'est un festival de verre, c'est...
Spectaculaire.
Ah oui. Genre les rizières.
Exactement.
Les rizières inondées d'un vert fluo incroyable, les campagnes verdoyantes et les fleuves comme le Mékong ou le lac Tonlé Sap, ils sont immenses, gonflés à bloc.
Waouh.
Et puis, côté pratique, il y a beaucoup, beaucoup moins de touristes. L'expérience sur les sites est plus intime, disons. Et cerise sur le gâteau, les prix baissent souvent. Hôtels, activités, c'est plus calme et plus économique.
Je vois bien la différence. D'un côté, le confort, la facilité de la saison sèche, de l'autre, la nature exubérante, la tranquillité de la saison des pluies, mais avec des contraintes quand même.
C'est exactement ça.
Alors, comment on choisit si, par exemple, l'objectif principal, c'est Angkor? Qu'est-ce que dit le guide?
Là-dessus, le guide est assez clair. Pour explorer encore dans les meilleures conditions, il recommande la période de novembre à mars.
Logique.
Oui, on retombe sur la saison sèche, surtout novembre à février, où le climat est vraiment clément. Moins de chaleur écrasante, ciel dégagé, c'est parfait pour arpenter les temples pendant des heures sans fondre sur place.
Mars, ça commence déjà à chauffer un peu plus. Et avril, juste avant la mousson, alors là, les températures peuvent vraiment grimper très haut, ça rend les visites plus fatigantes. Le guide classe d'ailleurs avril comme moyen seulement.
Ok, logique implacable. Et si on veut plutôt aller buller sur les plages du sud? Korong, Korong Samlom, ces îles paradisiaques.
Même combat.
Oui, là aussi, c'est la saison sèche qui gagne. Le guide pointe spécifiquement décembre à février comme la période la plus sympa. C'est le cœur de la période excellente. Grand soleil, mer d'huile, quasi pas de pluie. Le top pour la farniente, la baignade, le snorkeling.
D'accord. Mais tu parlais des paysages verts incroyables tout à l'heure. Si on rêve de ces photos de rizières super vertes ou de voir la campagne luxuriante, là, il faut changer de stratégie, j'imagine.
Ah ben oui, là, on inverse tout.
Carrément.
Oui. Pour ces paysages-là, ces panoramas naturels à couper le souffle, le guide suggère, paradoxalement, de viser la saison des pluies, surtout juillet à octobre.
Ah bon ?
Eh oui. C'est là que tout est gorgé d'eau, que la végétation est la plus dense, la plus verte. Les rizières sont magnifiques juste avant la récolte. Pour les passionnés de nature, les photographes, c'est unique.
Mais il faut accepter la pluie du pouls.
Voilà, c'est le compromis. Il faut composer avec les averses quotidiennes. D'ailleurs, le guide est honnête, hein. Il note juillet, août et septembre comme déconseillés.
Ah, carrément déconseillés.
Ouais, à cause des pluies fréquentes, abondantes et de l'humidité très forte. Donc, c'est vraiment un choix. Paysage incroyable contre confort météo.
Ok, c'est noté. Au-delà de la météo et des paysages, il y a autre chose d'important, les fêtes, les événements culturels. Le guide en parle ?
Oui, et c'est un point super important. Participer à un festival, c'est une immersion géniale dans la culture locale. Le guide en met trois en avant.
Ah, lesquels ?
D'abord, il y a la fête de l'eau Bon Homme Touk. Ça a lieu en novembre, souvent à Phnom Penh. C'est énorme. Il y a des courses de pirogues traditionnelles, immenses et colorées, sur le fleuve.
Ah oui, j'ai vu des images, c'est impressionnant.
C'est lié à l'inversion du courant du Tonlé Sap, un phénomène naturel fou. L'ambiance est hyper festive, très populaire. Si on voyage en novembre, ça ajoute vraiment quelque chose.
À Mal, et ensuite ?
Ensuite, incontournable. Le Nouvel An Khmer, Cholchnam Tme. C'est mi-avril, c'est la plus grande fête de l'année là-bas.
C'est un peu comme notre Nouvel An ?
Oui et non. Ça dure 3 jours, ça marque la fin de la saison sèche. C'est un mélange de rituels bouddhistes dans les pagodes, de grandes fêtes de famille, de jeux traditionnels et de batailles d'eau géantes dans les rues.
Ah, sympa les batailles d'eau.
Très sympa, mais le guide prévient. C'est aussi les grandes vacances. Beaucoup de Cambodgiens voyagent, donc les transports peuvent être bondés et les hôtels plus chers. C'est à savoir.
Bon à savoir, oui. Et le troisième festival ?
Or, Phnom Penh. Ça tombe en septembre ou octobre, ça dépend de la lune. C'est une période de 15 jours, très spirituelle, pour honorer les ancêtres.
Ah, c'est plus solennel alors ?
Oui, beaucoup plus. Les familles vont dans les pagodes, font des offrandes aux moines, prient pour les âmes des défunts. Assister à ça, même de loin et discrètement, c'est une plongée émouvante dans les traditions bouddhistes, en pleine saison des pluies.
Intéressant. Donc, ces festivals ajoutent une vraie dimension au choix de la date. Novembre, c'est la fête de l'eau et le beau temps. Avril, c'est la ferveur du nouvel an, mais avec la chaleur. Septembre-octobre, c'est Phnom Penh, l'ambiance locale, les paysages verts, mais la pluie.
Exactement. Le guide aide bien à voir ces combinaisons possibles. Et pour avoir une vue d'ensemble, il propose même un résumé mois par mois.
Ah oui ?
Avec des notes...
Oui, avec ces fameuses notes AB. Excellent, bien, moyen, déconseillé. On a déjà parlé des mois excellents, novembre à février, climat idéal.
Oui.
Il confirme aussi que mars et surtout avril sont les plus chauds. La chaleur peut vraiment être écrasante juste avant la mousson.
Ok.
Et il classe clairement juillet, août, septembre comme déconseillé. Pas que ce soit impossible d'y aller, attention, mais il faut s'attendre à des pluies quasi quotidiennes, parfois fortes, beaucoup d'humidité et des galères possibles pour se déplacer, surtout les petites routes à la campagne.
C'est l'option aventure et petit budget, en gros.
C'est un peu ça, pour ceux qui privilégient les paysages et les économies au confort météo.
Et les mois entre deux, mai, juin, octobre.
Eux, ils sont classés moyens. C'est le début ou la fin de la mousson. Le temps est plus variable, moins prévisible. On peut avoir de super journées, mais aussi des averses plus fréquentes qu'en saison sèche. C'est l'entre-deux, quoi.
D'accord, c'est très clair. Bon, une fois qu'on a choisi sa période, faut penser pratique. Les valises. Qu'est-ce qu'on met dedans, selon la saison ? Le guide donne des conseils ?
Bien sûr.
Logiquement, c'est pas la même chose. Pour la saison sèche, novembre-avril, le guide insiste, protection solaire à fond, vêtements légers, amples, mais couvrants.
Oui, ça c'est important pour les temples.
Exactement, tenue correcte exigée souvent, épaules et genoux couverts, donc t-shirt, pantalon léger ou jupe longue, et puis crème solaire, indice élevé, chapeau, lunettes de soleil. La base sous les tropiques.
Et pour la saison des pluies ?
Là, l'indispensable, c'est le kawé ou le poncho. Un bon imperméable. Et des chaussures qui craignent pas l'eau et la boue. Genre sandales de marche ou chaussures qui sèchent vite. Le guide dit aussi de prévoir plus de temps pour les trajets. Ça peut être ralenti.
Logique.
Et puis, il y a des conseils valables toute l'année, rappelle la source. boire que de l'eau en bouteille, bien capsulée, et se protéger des moustiques.
Ah oui, très important ça.
Surtout au lever et au coucher du soleil. Ils peuvent transmettre la dengue. Donc, répulsif efficace, vêtements longs le soir si possible, et une moustiquaire, ça peut servir selon où on dort.
Ok. Et l'autre aspect pratique super important que le guide aborde, le budget. On l'a un peu évoqué. Mais est-ce que ça joue beaucoup sur le coût du voyage, la période ?
Bonne question.
Oui, l'impact est clair, le guide le confirme. La saison des pluies, disons de mai à septembre, c'est la basse saison. Moins de demandes, donc les prix.
Ils baissent.
Exactement. Les hôtels, parfois les vols internes, certaines activités, ça devient nettement moins cher. C'est donc la période la plus économique pour découvrir le Cambodge.
Et en plus, moins de monde.
Voilà, le bonus. Moins de fous, là encore, par exemple, c'est quand même appréciable. C'est vraiment l'option à envisager si on a un budget serré ou si on veut éviter les groupes.
Et à l'inverse, la saison sèche.
À l'inverse, la saison sèche, surtout novembre à février, c'est la haute, voire la très haute saison. Le climat est top, donc tout le monde veut y aller. Résultat, les prix grimpent.
Hôtels, vols ?
Oui, hôtels, vols internationaux, même certaines choses sur place. C'est flagrant pendant les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, et aussi autour du Nouvel An Khmer en avril. Si on part à ce moment-là, il faut un budget plus large et surtout, surtout...
Réserver à l'avance.
Voilà, réserver bien en avance, hébergement et transport. Sinon, mauvaise surprise.
Donc, le choix de la saison, c'est aussi une question de portefeuille, clairement. Météo top, mais plus cher et plus de monde, ou météo plus aléatoire, mais plus calme et moins cher. Le guide donne vraiment les clés pour faire ce calcul.
C'est ça. Pour résumer les points clés du guide, meilleur climat pour encore et les plages, c'est globalement novembre à février. Voyager pendant la mousson, c'est possible, avec des paysages superbes, moins de monde, moins cher, mais il faut accepter les averses et être flexible.
Et le moins cher, c'est la saison des pluies. Mai à septembre. Sans toute l'année, il n'y a pas vraiment de mauvais moment.
Non, c'est vrai.
Le moment idéal, il est propre à chacun. Ça dépend de ce qu'on met en priorité. La météo, le budget, le type de vacances, temple, plage, nature. Est-ce qu'on supporte la foule ? Est-ce qu'on veut vivre une fête locale ?
Exactement.
Le Cambodge, il a sa magie, peu importe la date, on dirait.
C'est une belle façon de le voir. Et juste pour lancer une dernière idée qui sort un peu du guide.
Oui.
Le guide, il parle des conditions objectives. Mais l'expérience vécue, elle, elle est subjective, non ? Voyager en saison des pluies, oui, ça offre des paysages dingues et moins de monde. Mais comme le dit le guide, avec les routes coupées, les averses, ça demande aussi de s'adapter, d'accepter l'imprévu.
Faut être plus flexible.
Voilà. Un bus annulé, une excursion reportée. Et ça pose une question, je trouve. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment en voyageant ? Des conditions parfaites, maîtrisées, pour coller à l'image qu'on s'en fait ?
Ou autre chose ?
Ou justement, est-ce qu'on est prêt à accepter une part d'imprévu, une aventure peut-être moins confortable, mais qui nous rapproche plus du rythme réel du pays, des gens, une expérience plus authentique, peut-être ? Choisir sa saison au Cambodge, c'est peut-être aussi un peu choisir son type de voyage, au fond ?
Intéressant comme réflexion.
Une petite pensée à laisser mûrir en faisant ses bagages.